Le psaume sous les étoiles, chapitre 10. Baduel alla lui-même à Alès, et nous ramena Isabeau, après lui avoir dit, chemin faisant, et avec prudence, la vérité sur notre sort. Elle n'y pouvait d'abord croire, et en fut saisie jusqu'aux sanglots. « Et quoi ? Disait-elle. « J'ai tant prié Dieu pour eux. Me fait-il vraiment cette grâce ? Que de fois je les ai revus en songe près de moi ? Et quel réveil ensuite dans le deuil et les larmes ? Mais puisque le Seigneur nous les rend, ne pensez-vous pas, mon père, que c'est qu'il veut les sauver tout à fait, les ramener à la vérité ?»« Mon enfant, lui répondait Baduel, il faut aller au plus pressé et qu'il se réfugie d'abord à Genève, car j'appréhende toujours quelque trahison. » Dieu, quelle horreur ce serait! Et je compte beaucoup sur toi, Isabeau, pour les décider à faire bénir leur mariage par le curé Foucard sans plus tarder. Ils ne sont donc point mariés, les malheureux! Mais, mon père, ne m'avez-vous pas dit qu'ils vivaient ensemble au désert? Mon maître lui raconta alors toute notre aventure, comment, sur l'ordre de l'esprit, Florette attendit Daniel de Leuze pour nous marier, et comment Daniel fut massacré avant d'avoir pu le faire. Isabeau n'en revenait pas. « Ma pauvre petite Florette, disait-elle, peut-elle vraiment croire que l'esprit lui parle? Ah, mon Dieu, guérissez-la, sauvez-la! Je t'en prie, ma bonne Isabeau, ne leur parle pas trop de religion. Laisse le temps faire son œuvre. Ils ignorent les événements actuels et croient que la révolte est abattue depuis l'affaire de Vanias. Ne les détrompe pas. » Après tant de deuils et parmi les dangers qui planaient sur nous comme des éperviers cruels, ce furent vraiment quelques chaudes journées d'affection familiale que nous vécûmes tous ensemble quand Isabeau fut là. Ainsi, entre deux ouragans sinistres, on voit luire parfois un soleil joyeux, hélas, vite éclipsé. Le clair et pur visage d'Isabeau portait les traces de la pénitence et des mortifications, mais son sourire, autrefois grave et un peu hautain, s'imprégnait maintenant d'une douceur joyeuse et, chose incroyable, qui emplissait Guillemette d'admiration. Cette Isabeau, jadis morose et renfermée, devenait aujourd'hui la haute joie de la maison, toujours égale et satisfaite, trouvant des propos et des jeux qui nous égayaient tous. Florette ne la quittait guère, et les deux sœurs s'émerveillaient d'être ensemble. Au milieu même des effusions de l'arrivée, Florette avait mené Isabeau dans sa chambre, que je lui avais rendue pour réinstaller au premier étage, et tout de suite, elle lui avait dit « Je t'aime trop, ma sœur chérie, pour que je ne t'ouvre tout mon cœur. Tu as été pour moi comme une mère, au point de vouloir souffrir tout ce que tu as souffert pour me sauver la vie, car tu l'avais bien vu, je serais morte, enfermée dans la tour. » Il ne saurait donc y avoir rien de caché entre nous, et c'est pourquoi je veux que tu saches d'abord que pendant son délire, Jean m'a tout dit. » Isabeau rougit un peu et fit le signe de la croix, puis elle murmura « Et tu m'as pardonné, petite sœur ?» Florette se jeta dans ses bras, la serra étroitement. « Te pardonner ? Et quoi donc, ma grande ? Nous avons péché, mon enfant. » Mais la Vierge pure nous a sauvés de la tentation diabolique. Depuis, j'ai tellement prié Dieu qu'il m'a sans doute exaucé, car il a rendu le calme à mon cœur. Tu l'aimais donc ? Dis-le-moi, Isabeau. Tu aimais Jean ? Tu l'aimes peut-être encore ? Isabeau mit un doigt sur la bouche de Florette. Tais-toi, petite fille, il est au fond des âmes de mystérieux abîmes qu'il ne faut point essayer de violer, car ils sont insondables. J'ai toujours eu pour Jean l'affection d'une sœur, tu le sais. Sans en avoir bien conscience, quand nous étions enfants, j'ai toujours souffert aussi de ce qu'il te préférait, mais je n'ai compris que je l'aimais autrement qu'un frère, que lorsqu'il s'est fiancé à toi. Dès ce moment, Florette, j'ai renoncé à lui pour toujours. Et je n'ai jamais soupçonné le tourment de ton cœur, et pourrais-je me pardonner à moi-même d'avoir vécu si longtemps séparé de toi, de t'avoir ignoré, méconnu. Ma chère petite, les voies du Seigneur nous sont cachées. Le mieux est d'accepter avec joie ou résignation les heures qu'il nous donne. » Florette m'appela. « Je lui ai tout dit, » fit-elle simplement. Et nous nous embrassâmes tous les trois, à cœur ouvert, au beau soleil d'avril. Je ne m'attarderai point sur cette quinzaine de bonheurs trop brefs qui nous mena vers les premiers jours de mai. De propos délibérés, nous avions écarté de nos conversations toutes les affaires de la religion. Isabeau d'ailleurs nous étonnait par l'élévation de son âme. Elle prenait sur nous un ascendant imprévu, un véritable empire d'une douceur infinie. Pour rien au monde, nous n'aurions voulu disputer avec elle de peur de lui faire de la peine. Un jour pourtant qu'elle venait de prier avec ferveur, Florette lui demanda en souriant pour qui elle avait prié. « Pour toi et pour Jean, petite fille, en doutes-tu ? Es-tu sûre que Dieu t'exauce, Isabeau ? Certes, je n'en doute pas, vos cœurs sont foncièrement bons et purs. Il les sondera, les purifiera davantage jusqu'à les rendre dignes du salut. » Elle ajouta maternelle, « Je n'ai pas mission de vous prêcher, mes enfants. Je prie seulement, je prie de toute mon âme. Dieu m'entendra. Il est plus fort que les dragons. » « Alors, chérie, dit Florette, tu n'approuves pas qu'on veuille nous traîner de force à la messe et qu'on massacre ceux qui prient au désert. » La Sainte Église, Florette, est pure et innocente. Elle accueille les brebis perdues et ne veut pas leur mort, mais leur vie éternelle. Elle n'a jamais massacré personne. Florette pâlit un peu, puis dit très vite, « C'est juste. Elle se borne à nous livrer à Baville, qui appelle ensuite le bourreau. » « Florette, dis-je, tu sais ce qui est entendu entre nous. Respecte les scrupules d'Isabeau, ne la trouble pas, je te prie. »« Elle ne me trouble pas, Jean. Laisse-la dire, la chère petite. Je sais trop ce que vous avez souffert, ce que je souffre moi-même à cause de ces luttes sanglantes. Et si elles apportent la division au sein des familles, pensez-vous que Dieu les puisse approuver ? Dieu ne veut pas que les liens du sang et de l'affection soient rompus ni relâchés. » « Ah oui, chère sœur, si tout savait ton âme, on ne se battrait point. Tu n'as pas hésité à me sauver parce que je suis ta sœur, que nous sommes une même chair, mais tu as vu aussi que toutes les puissances de l'Église romaine ont voulu alors te convaincre de pécher. » « Non, ma Florette, n'accuse pas l'Église. J'ai péché alors contre l'ordre civil, contre la règle des hommes, non pas contre la loi de Dieu. » « Au couvent, dit Florette, cette affreuse madame d'Herbaudouze voulait à tout prix me faire convenir que le roi a raison quand il veut nous convertir de force. Elle me citait là-dessus saint Augustin et Tertullien. Vous devriez bénir Dieu de la violence qu'on vous fait. Quoi de plus conforme aux lois divines et humaines que de remettre un soldat sous le drapeau de son capitaine, un enfant prodigue dans la maison de son père, un peuple révolté dans l'obéissance de son souverain ? Madame d'Herbaudouze est une excellente chrétienne, Florette, n'en doute pas. Mais elle est aussi une créature humaine comme nous. Toutes ses paroles ne sont pas des articles de foi. Baduel venait d'entrer sans bruit depuis un moment. « Je vous y prends, dit-il, à discuter sur la religion. Et c'est Florette qui a commencé. Ah, la jeunesse est vraiment incorrigible. Et quand voudra-t-elle ouvrir l'oreille au conseil des anciens ? Ces discussions, mes enfants, croyez-en votre père. » N'ont jamais abouti qu'à des querelles et à des coups de fusil. C'est un feu stupide, mais qui brûle. Il n'y faut point toucher. La seule sagesse est de prier Dieu en silence, comme fait Isabeau, et de se réjouir d'un cœur simple et reconnaissant quand il nous fait la grâce d'être ensemble, comme aujourd'hui. » Florette ne parlait jamais à Isabeau de ses visions. Elle semblait d'ailleurs n'y plus penser, et, par discrétion, Isabeau attendait qu'elle lui ouvrît son cœur sur ce sujet délicat. Un de ses premiers soins fut de la disposer à faire bénir notre mariage par le curé Foucard. Florette résista quelque temps. Elle se rendit pourtant peu à peu à nos raisons, et un soir que nous nous promenions seuls tous deux dans le parc, je la décidai enfin. Il fut donc entendu que le mariage aurait lieu à la Liquaire et que nous partirions aussitôt, après la cérémonie, pour gagner la Suisse. La veille du jour impatiemment attendu, où nous devions enfin être mariés. Nous étions sortis, Florette et moi, dans le parc après souper. Et, sous la lune fantastique, nous suivions notre rêve d'amour sans plus penser à autre chose qu'à nous enivrer de la musique de nos voix. Et, comme nous arrivions vers les clôtures, il nous sembla entendre à quelque distance comme une plainte d'animal blessé. Florette murmura, « Ne dirait-on pas le javanel ?» Et tous deux nous pensions à Méric, nous étonnant une fois de plus qu'il ne fût point venu nous visiter à la Liquaire, car nous ignorions qu'après l'avoir chargé d'aller prévenir ma mère, le prudent Baduel lui eût interdit, sous les plus terribles menaces, de venir nous troubler jamais. Nous fîmes quelques pas encore, et cette fois, plus près de nous, le javanel ulula nettement. Sans quartier ! Criai-je. Aussitôt, nous apercevions une ombre qui escaladait le mur et venait à nous, le fusil à la main, disant « Frère Jean, me voici !» C'était bien Méric qui nous embrassa avec effusion. « Ah, sœur Florette ! Ah, frère Jean, que je suis heureux de vous voir enfin ! Ah, tronc de padisque ! Vous avez un père qui n'est pas commode, mais malgré toutes ses défenses, j'ai toujours pu savoir ce qui se passait à la Liquière. Cavalier m'a chargé de vous garder et je vous garde. Et il se fait temps, frère Jean, que tu guérisses, car le Seigneur a besoin de toi et aussi ta brigade. » Mais que veux-tu dire, Méric ? Les enfants de Dieu ne sont-ils pas vaincus, hélas ? Vaincus ? Mais vous ne savez donc rien. Nous apprenions alors que Jean Cavalier avait pu s'échapper de Vagnas et reprendre la campagne avec une armée nouvelle et toujours plus nombreuse. Méric nous dit, en bref parlé, tout ce qui s'était passé depuis Vagnas et la force croissante de nos frères qu'on appelait maintenant Camisards. La troupe de cavaliers allait à plus de 1000 hommes avec 200 cavaliers. Julien avait, par traîtrise, enlevé toute la population de Mialé et de Somane et incendié Génolac, après en avoir massacré les habitants. Méric nous dit encore l'horrible tragédie du moulin de Calvière, à Nîmes, le jour des rameaux, et enfin la boucherie de la tour de Billot, le 29 avril, où plusieurs centaines de nos frères furent massacrés ou brûlés dans l'incendie de la ferme, sans que les attaques furieuses et plusieurs fois renouvelées de cavaliers les aient pu dégager. Il ajouta que nos représailles ne chômaient point et devenaient toujours plus terribles. Puis, à voix basse, il dit encore « Maintenant, il faut vous méfier et bien prendre garde à ce qui se passe autour de vous. Trop de gens commencent à soupçonner que vous n'êtes pas mort, et tous ne sont ni sûrs ni discrets. Ils rôdent par ici depuis quelques jours des figures sinistres qui ont sûrement pour mission d'épier la Liquière. Dès que je m'en suis avisé, j'ai couru prévenir le frère cavalier qui s'est mis en route avec 4 brigades pour veiller sur vous, camper dans les bois voisins, en attendant que vous puissiez nous rejoindre. » À mesure que Méric parlait, Florette s'immobilisait sous la pleine lune, et quand il se tut, elle éleva ses bras vers le ciel et, subitement inspirée, elle dit « Je te commande, mon enfant, d'aller joindre les enfants de Dieu sans y mettre aucun retardement. Prends la main de ton frère et marchez au combat. Et voici, je vais le revêtir d'une tunique de santé et en toi je mettrai le glaive de ma parole afin que les martyrs soient exaltés et vengés. Je t'assure, mon enfant, que ton épreuve est finie et je reviens à toi car je t'ai trouvé digne de mes grâces. » On a crié « L'épée de Gédéon, elle est polie, elle est aiguë, les corbeaux crient vers leur pâture. Et moi je vous dis, l'épée étincelle et l'amour flamboie, l'épée tranche et la foi dévore, et l'épée ne peut rien sans la foi, sans l'amour. Aimez-vous donc et priez, car si vous avez la foi des martyrs et qu'un seul amour confonde vos âmes, je vous le dis en vérité, vous entendrez bientôt mes saintes cohortes chanter vos épousailles dans le ciel. » Florette se tut. Toutes les fois qu'elle prophétisait, la ravissante créature m'emportait avec elle dans son extase. J'étais enivré du sourire divin qui la transfigurait. De ses grands yeux, une ondée de lumière magique s'élançait vers les espaces, comme un jet de flèche éblouissante sous l'arc adorable des sourcils noirs. Je me plongeais dans la profondeur de son âme. Je ne faisais plus qu'un avec elle. En ces minutes ferventes, je partageais aveuglément toute sa foi. Je voyais... J'entendais ce qu'elle entendait et voyait, et je ne pouvais ensuite m'expliquer ce pouvoir surhumain qui me tenait alors à sa douce merci. Ainsi, tous nos projets de bonheur nuptial, cet adorable songe que nous faisions de vivre à deux à Genève, dans une ivresse d'amour toujours nouvelle, au sein d'une paix profonde, cet espoir chuchoté de douces mains d'enfantelés se tendant vers nous, tout s'en allait en fumée, laissant à la place un terrible et fatal devoir. Le lendemain, il faisait un temps merveilleux. Nous attendions l'abbé Foucard, et Florette se proposait de le prendre à part dès qu'il arriverait pour lui demander qu'il renvoyât la cérémonie, ce qui nous donnerait le temps de préparer, à l'idée de notre départ, les êtres chers qui vivaient là. À partir de 10 heures, nous commencions à être un peu surpris que le curé ne fût point encore là. À midi, la surprise était devenue de l'inquiétude. Cependant, on se mit à table, espérant toujours qu'il viendrait. Mais voici qu'à la fin du repas, la mère Amblard accourait plus morte que vive. « Maître, dit-elle, Il y a plus de 100 grenadiers qui entrent par la grille du parc. » Saisis d'épouvante, nous nous levions tous aussitôt. Mais Baduel, gardant son sang-froid, « Vite, dit-il, Florette et Jean, suivez-moi. » Il nous menait à la chambre d'Isabeau, ouvrait le placard du fond et, après l'avoir rapidement débarrassé des vêtements qui étaient suspendus, déplaçait l'un des panneaux qui cachait une ouverture par où nous nous glissions aussitôt dans une logette étroite et obscure, pratiquée à même l'épaisseur du mur et qui n'avait d'air que par une tuile chatière dans la toiture. Puis Baduel remit en place le panneau et les vêtements et rejoignit la compagnie. Ainsi, à cause du malheur des temps, les châtelains et les massiers dissimulaient dans leur demeure des refuges dont ils gardaient bien le secret. Et pendant que l'angoisse nous dévorait au fond de notre cache, où nul bruit du dehors n'arrivait, voici ce qui se passait tout près de nous, tel qu'on nous le rapporta peu après. Le capitaine qui commandait les grenadiers fit d'abord entourer le corps des bâtiments de tous les côtés. Puis il se présenta à la grande porte et on lui ouvrit. Il entra avec deux sergents. « Maître Baduel, au nom du roi !»« C'est moi, » dit mon parrain. « Maître, » reprit l'officier, « vous cachez ici le camisard Jean Peyrobe, dont la tête est mise à prix, et sa complice, la prophétesse Florette Baduel, condamnée à la relégation. J'ai ordre de les saisir et de les emmener. »«
Monsieur le capitaine, » dit Baduel, « ils ne sont pas ici, on vous a renseigné à faux. »
« Je suis donc obligé, maître, tant les indications que j'ai sont précises, de faire fouiller le château. » Il se tournait vers les sergents pour leur donner des ordres, quand l'un de ceux-ci s'écria tout à coup, désignant Isabeau du doigt, « Et je n'ai point la berlue, voici celle que nous cherchons. »
« Vous vous trompez, » dit mon maître, « celle-ci est ma fille aînée, qui ressemble en effet à sa sœur, mais qui, Dieu merci, ne prophétise point. »
« Excusez-moi, seigneur, de vous faire mentir, mais je ne me trompe certainement pas. Je la reconnais bien. C'est elle qui, à Vagnas, me gratifia d'un maître coup de hache, dont voici encore la marque toute fraîche dans mon bras. Certes, quand je vivrai 100 ans, je ne l'oublierai point, et je la reconnaîtrai entre toutes. Elle frappait comme une enragée. »
Il se tut un instant, puis, comme halluciné, regardant fixement Isabeau, il dit
« Oh oui, la voilà bien, oh ce regard, je l'ai encore comme un couteau dans le cœur quand elle me voulut tuer. »
« Êtes-vous bien sûr que ce soit moi, sergent ?» dit Isabeau. « Réfléchissez, regardez-moi bien. »
« Ah, dit-il en levant la main droite, je puis le jurer devant Dieu, c'est vous. »
« Eh bien, mademoiselle, dit le capitaine, il faut nous suivre sans aucun retard. »
« Vierge sainte, gémit Isabeau, secourez-moi, je vous prie, en cette épreuve cruelle. »
« Ah !» fit le sergent, « il ne faut pas essayer de nous donner le change, et il convient mal à une fanatique comme vous d'invoquer la Sainte Vierge. »
Mon maître s'interposa. « Je vous dis, capitaine, qu'il y a ici une erreur. Et tenez, nous attendons l'abbé Foucard, curé et doyen de Saint-Vincent d'Alès. Vous allez pouvoir invoquer son témoignage, vous verrez que vous vous trompez. » Et il s'était placé devant sa fille comme pour la défendre. Il y eut alors un tumulte, plusieurs soldats envahirent la salle, bousculèrent Baduel. L'un d'eux saisit Isabeau, l'entraîna et, sur le perron, lui voulut lier les mains avec une corde. Épouvantée, elle criait en se débattant. Son père essayait de venir jusqu'à elle. « Ne résiste pas, je t'en prie, Isabeau, n'aie pas peur. Tout va s'éclaircir. Ne te débats point, on ne te fera pas de mal. » Mais la pauvrette était affolée. Tout à coup, pour notre malheur, elle parvint à se dégager et s'enfuit en courant dans le parc. Alors les grenadiers s'élancèrent à sa poursuite. « La prophétesse » criait-il, « arrêtez-la, ne la laissez pas s'échapper !» Soudain, on entendit un coup de feu, et Isabeau tomba. Cette scène atroce s'était déroulée en un clin d'œil. Guillemette s'évanouit, et cependant que Mion et la mère Amblard s'efforçaient de la ranimer, Baduel avec ma mère et Nicole se précipitaient dans le parc, écartant les soldats qui, maintenant comme étonnés de leur forfait, les laissaient passer. On apporta vite Isabeau dans la salle. Son sang coulait abondamment. « Ah !» gémissait Baduel en se tordant les bras. « Vous m'avez ôté mon innocent enfant, mon aîné, le seul espoir de mes vieux jours. Vous avez tué la sainte du couvent. Malheureux, qu'avez-vous fait ?»
Le capitaine, qui commençait à soupçonner sa méprise, disait « Maître Baduel, du courage, elle ne sera que blessée, et je vous en prie, vous certifierez, n'est-ce pas, que ce n'est point moi qui ordonnais qu'on tira sur elle. » Or, comme on s'empressait autour d'Isabeau pour la secourir, il arriva que tout à coup, vers la grille du parc, une fusillade nourrie éclata et qu'un grenadier accourut, criant « Alerte ! Voici les fanatiques !» Et aussitôt, par toutes les avenues du parc, ayant escaladé les murs de clôture, on vit les camisards qui se précipitaient vers le château, la baïonnette haute, en chantant le psaume des combats. Les grenadiers, surpris, essayaient en vain de se mettre en bataille. Quelques-uns se réfugiaient dans les bâtiments, faisaient feu par les fenêtres, mais leur troupe se trouva bientôt cernée de toutes parts, et alors une boucherie horrible commença. La vieille Mion, debout sur le perron, les yeux hors de la tête et tout échevelée, clamait à perdre haleine « Hardi, enfant de Dieu, pas de quartier, les misérables, ils ont osé tirer sur Isabeau !» Ayant reconnu les grenadiers de Hainaut qui les avaient battus à Vagnas, nos frères n'avaient pas besoin qu'on les excitât au carnage. Ils frappaient sans miséricorde, criant « Paix Vagnas ! Paix Vagnas !» Le capitaine fut dépêché l'un des premiers d'un coup de pointe. Il n'échappa que deux ou trois grenadiers. Tous les autres périrent misérablement, et il y eut bientôt devant le perron une vaste mare de sang. Les nôtres n'avaient perdu que 8 hommes dans cette rencontre, tant la surprise de l'ennemi fut complète. Baduel vint nous tirer de la cachette. « Ah ! » dit-il d'une voix méconnaissable, tant le désespoir l'altérait. « Vous pouvez vous montrer maintenant. » « La malédiction de Dieu est sur nous. Les grenadiers ont tué Isabeau, puis les osards sont venus qui ont massacré les grenadiers. Voilà où aboutit la cabale maudite. Ah, puissais-je n'être jamais né ?» Pénétrés d'horreur, nous nous précipitions vers le groupe sanglotant qui entourait Isabeau. Notre chirurgien, Tavant, lui donnait ses soins. Elle semblait reprendre quelque vie, et quand ses yeux, qui se rouvraient, nous virent, elle sourit doucement, cependant que nous lui tenions les mains, les inondant de nos larmes. Debout près de nous, le chapeau à la main, Jean Cavalier pleurait aussi. Il me serra dans ses bras, sans parler. Tavant dit, « La blessure est profonde, mais elle a beaucoup saigné, tout espoir n'est pas perdu. » Il lui lavait et bandait la plaie. La chère créature nous disait à voix faible, « Florette, Jean, tenez-vous près de moi. Je vais mourir, je le sens. Je vous aime de tout mon cœur. Ne l'oubliez jamais. » « Ne parle pas de mourir, » disait Florette, retenant ses sanglots. « Que ferions-nous sans toi, maintenant ?»« Vous vous aimerez bien, mes chers enfants. Par l'amour, vous viendrez à la vérité. Et là-haut, je supplierai pour vous notre Père céleste. » « Isabeau, non, c'est impossible, Dieu ne peut pas vouloir cette injustice qu'on te frappe à ma place. Faut-il que notre ressemblance te soit ainsi fatale à toi, bonne et pure entre toutes ?»« Respecte les arrêts du Seigneur, Florette, lui seul peut dire où il nous mène. » À ce moment, le curé Foucard arriva. Il avait été arrêté le matin par les camisards qui voulurent d'abord l'immoler. Il fut par bonheur conduit avec le père Cambrecroze à Jean Cavalier qui les connaissait l'un et l'autre. C'est peu après que Méric était accouru au camp de l'Éternel, y annonçait que 2 compagnies de grenadiers venaient d'entrer à la Liquaire. Alors nos frères s'étaient hâtés vers le château et l'avaient enlevé d'assaut, trop tard, hélas, pour empêcher l'abominable assassinat qui nous mettait au désespoir. Quand Isabeau vit s'approcher le prêtre, son visage s'illumina. « Ah, mon bon père, dit-elle, vous arrivez à temps. Dieu n'a pas voulu que je meure sans vos bénédictions. Que son saint nom soit béni. Vous étiez venu pour unir ma sœur à son fiancé, et c'est moi que vous unirez d'abord au céleste époux. » Ce furent ses dernières paroles. Le bon curé Foucard, qu'il avait vu naître, maîtrisait à grand-peine son émotion. Il s'en fut à la chapelle revêtir à la hâte ses habits sacerdotaux. Notre pauvre Isabeau s'affaiblissait de plus en plus, et chacun dans son cœur sentait l'approche de la mort. Et cependant, le chaud soleil de mai entrait par toutes les baies ouvertes avec la laine des jeunes fleurs. Nos frères emportaient les morts à l'orée du bois voisin, se hâtaient d'y creuser une tranchée pour leur donner la sépulture. D'autres lavaient les marches du perron et les abords du château souillés de sang. Une de nos brigades à cheval, commandée par Saint-Paul, s'était rangée devant la terrasse. Quand le curé Foucard parut, revêtu de la chasuble et de l'étole violette et portant les saintes huiles, nos hommes ôtèrent leur feutre. Mais Cavalier commanda « Pied à terre et à genoux ». Et, s'inclinant vers le prêtre, il lui demanda « Mes soldats veulent prier. Le peuvent-ils ?»« Qu'ils disent « Notre Père », répondit le curé. « C'est la supplique à Dieu qui nous réunit tous. » Et, comme il entrait dans le château, et commençait à dire les prières consacrées. Dehors, on entendit monter vers le ciel l'oraison dominicale murmurée par les osards à genoux.